RFI, grand reportage, Charlotte Hydrac.
Bonjour, grand reportage en Afghanistan, où la situation d'anciens interprètes de l'armée française s'est aggravée. Ils vivent sous la menace des talibans, sont forcés de déménager, de se dissimuler sous des foulards lors de leurs déplacements. Des demandes de visa ont été refusées par la France, aucun motif n'a été donné. 100 dossiers ont été validés, 152 rejetés. À Kaboul, d'anciens interprètes ont accepté d'ouvrir leurs portes pour confier leur désarroi et alerter une nouvelle fois sur leur situation. Afghanistan, menace sur les ex-interprètes de l'armée française. Grand reportage de Sonia Ghezali, réalisation Pierre Chaffangeon.
Mercredi 23 novembre, Caïs et Adib, deux anciens interprètes de l'armée française, sont en voiture, direction une infirmerie de la capitale afghane.
On va chez Zainullah, il est dans une petite infirmerie. Et maintenant chez lui pour prendre qu'est-ce qu'il est, ça va ou non.
Donc une infirmerie qui se trouve, un petit dispensaire en fait, hein, qui se trouve à Kaboul. Et pourquoi est-ce qu'il n'est pas dans un hôpital?
Oui, il était dans un hôpital, mais il a peur que peut-être quelqu'un qui ensuite il cherche. C'est pour cela qu'il change son hôpital à cause de sécurité. Il est très très pauvre, il est moralement, et ça va pas. Un jour il nous a dit que oui, je vais changer, est-ce qu'il y a quelqu'un qui me connaît? Toujours il pose des questions, qu'est-ce que je dois faire, etc.
Là, on vient de retrouver Bachir. On est dans les couloirs de cette petite infirmerie qui donne sur une grande avenue en fait de Kaboul. On tire un rideau bleu. On arrive dans une chambre. C'est bon? Salam alaikum, Robastin.
L'étrier tiré Zainoula est allongé sur un brancard au fond d'une petite chambre de 12 mètres carrés. Auprès du jeune homme de 33 ans, sous perfusion, Adib, Caïs, Bachir, tous anciens interprètes de l'armée française.
Qu'est-ce qui vous est arrivé, Zainoula?
Hier, il était environ 16 heures, il y avait un convoi américain à 15-20 mètres de ma maison. J'étais en train de discuter avec eux de mes problèmes de sécurité. Il y avait deux hommes à moto. Les gens disent que l'un d'eux a sauté de la moto et s'est enfui en courant. L'autre, qui conduisait, était le kamikaze. Moi, j'étais debout, en train de discuter avec les soldats de la coalition. Il y avait plusieurs véhicules militaires. Mais le kamikaze s'est dirigé vers moi et les soldats avec qui je parlais. L'instant d'après, j'ai vu deux corps sans vie, au sol. J'étais blessé à la jambe gauche par un éclat qui m'a traversé la jambe. Après, je ne sais pas ce qu'il s'est passé. Je me suis évanoui. On m'a transporté dans une voiture et conduit à l'hôpital.
Zainoula retrousse le bas de son pantalon et laisse découvrir le bandage qui enserre sa cuisse gauche, au-dessus du genou, là où un éclat lui a transpercé la jambe, juste devant sa maison familiale, dans le nord de Kaboul. Sur son téléphone portable, Zainoula fait défiler des photos prises par des proches juste après l'attaque.
C'est juste devant chez moi. Vous pouvez voir les vêtements tachés de sang. L'attaque suicide a eu lieu juste là. Voici les traces de sang sur le sol. Là, les vêtements des personnes qui ont été blessées. Le kamikaze portait des vêtements blancs. En voilà des morceaux. Et ici, des bandages utilisés par les forces de la coalition. Et là, une partie du corps du kamikaze.
Donc vous êtes en train de me montrer des photos sur votre téléphone. On voit les restes humains du kamikaze qui s'est fait exploser à quelques pas de vous.
Oui, c'était à 15 mètres à peine du mur de ma résidence familiale. 15 mètres seulement. Voilà ma maison. J'étais debout, ici. L'insurgé est passé devant quelques véhicules, puis il est venu se faire exploser là. Voilà la route principale. Il l'a traversée pour venir de ce côté, pour faire déclencher sa bombe. Moi, j'étais juste ici. Voici mon village, et voilà d'autres photos que j'ai prises. Là, on changeait mes bandages. Je saignais. J'ai pris d'autres photos encore. Et j'ai aussi mes documents de l'armée française. D'ailleurs, si vous voulez prendre des photos...
Alors que sa cuisse saigne sur son lit d'hôpital, Zeynoula pense à prendre des photos, tout documenter, garder des preuves pour pouvoir les montrer. Il sait que les autorités françaises, qui ont déjà rejeté 2 fois sa demande de visa, les lui demanderont. Ce n'est pas la première fois que cet ancien interprète échappe à la mort. Il relève sa manche droite et pointe les cicatrices qui recouvrent son avant-bras.
As you can see, comme vous pouvez le voir, il y a 4 cicatrices. Une autre se trouve plus haut. J'ai reçu 6 éclats dans ma jambe et 1 dans la main.
Donc on voit les différentes cicatrices qu'il a sur au niveau de la jambe droite et au niveau de l'avant-bras droit, donc là où il a été blessé précédemment.
En juillet dernier, le 14e jour du Ramadan, il sort à l'aube pour arroser son jardin lorsque 2 hommes à moto lui tirent dessus avec un fusil de chasse. Il réussit à s'échapper chez un voisin. Quelques semaines plus tôt, il avait reçu des menaces de mort par téléphone pour avoir travaillé avec des étrangers. À ses côtés, Bachir, lui, est très lucide.
C'est la 2e fois qu'il est attaqué parce que c'est facile pour les insurgés de le trouver dans le village. Le village est un lieu calme. Il n'y a pas beaucoup de monde, pas beaucoup de voitures, peu d'activités. C'est facile pour eux de le trouver. C'est pour ça qu'on a quitté nos villages et que nous sommes venus ici.
Bachir a déménagé plus de 14 fois depuis le retrait total des troupes françaises en 2014. Une mesure de sécurité que chacun tente d'appliquer en fonction de ses moyens financiers. Zeynoula ne peut pas quitter son village situé dans le nord de Kaboul. Il n'en a pas les moyens. Les ex-interprètes ne baissent jamais la garde. Quand vient le moment de quitter Zeynoula, Caïs part le premier en éclaireur. Dans la chambre d'hôpital, Bachir reçoit quelques minutes plus tard un appel. Il donne le feu vert.
Quand vous sortez comme ça, vous pensez toujours à la sécurité, vous regardez autour de vous.
Oui. Le Kays, avant de nous, il descend parce qu'il check qu'est-ce qui se passe, est-ce qu'il y a quelqu'un ou non, etc.
Quand je garde ma voiture dans la rue, je vérifie d'abord qu'elle n'a pas été minée, qu'il n'y a pas de bombe qui a été cachée. Après, je regarde tout autour s'il n'y a pas quelqu'un susceptible de me reconnaître. Je regarde s'il n'y a personne de suspect. Et ensuite, j'ai appelé Bachir pour qu'il vous dise de me rejoindre rapidement.
En général, la sécurité, ça ne va pas. Il faut gaffe parce que si vous êtes avec nous, on doit faire attention. La vie est vraiment dure pour nous. On ne peut pas marcher, on ne peut pas vivre calmement, sans souci. Toujours il y a un souci dans notre corps. Toujours. Ni jour, ni soir, toujours on a un souci dans notre corps. Et quelqu'un qui nous cherche, quelqu'un qui va nous trouver. On espère qu'un jour on peut aller en France comme d'autres collègues. Et maintenant, ils sont en France. On espère.
Adib, Zeynoula, Caïs, Bachir, Mohamed ont tous vu leur demande de visa rejetée par la France. 152 anciens interprètes et auxiliaires de l'armée française sont dans cette situation, condamnés à vivre en sursis dans leur pays sous la menace perpétuelle des insurgés talibans. Pour confier leur histoire, ils me donnent rendez-vous chez l'oncle de Caïs.
Ma maison est une location. J'ai des voisins. S'ils savent que je reçois des journalistes français, des étrangers, cela peut être dangereux pour moi. C'est pour ça que je ne veux rencontrer personne chez moi.
You're afraid from your neighbors?
Oui, oui, j'ai peur de mes voisins et aussi des gens de mon village qui sont à Kaboul et qui se déplacent librement parce que le gouvernement ne connaît pas tous ceux qui sont avec les insurgés. Mais moi, je sais quand certains viennent ici. Quand je suis suivi, quand des gens posent des questions à mes voisins et demandent « Qui habite là ?» Alors je déménage. Je quitte Kaboul 2-3 mois, je ne reste pas au même endroit, puis je reviens.
Assis en cercle sur des toshaks, des matelas fins posés sur de larges tapis rouges foncés dans le salon traditionnel, chacun leur tour, ils racontent leur histoire. Tous sont venus avec une sacoche contenant des certificats, des attestations, des badges de l'époque à laquelle ils travaillaient pour l'armée française. D'une chemise en plastique, Caïs sort une lettre manuscrite, une lettre de menace reçue il y a quelques mois.
Nous savons que vous avez travaillé avec l'armée française en tant qu'interprète à Tagab. Vous étiez un espion et maintenant vous êtes un espion pour l'ambassade de France. Vous êtes payé très cher pour cela. Ceci est le dernier avertissement que l'on vous donne. Rendez-vous à la commission des talibans et vous serez emprisonné. Si vous ne le faites pas, on vous tuera.
Le village de Caïs se trouve dans la Kapisa à Tagab, district aujourd'hui sous le contrôle des talibans qui ont la main mise ou disputent 40% du territoire afghan.
J'en travaille 2 jours ou 3 jours par semaine. J'en vis très caché.
Caché?
Oui, caché. Je ne peux pas assister avec mes amis proches, mes familles. Je ne peux pas aller à Party Wedding.
Au mariage?
Mariage. J'en porte toujours. Je n'ai pas compté sur aucune personne.
Vous n'avez confiance en personne?
C'est ça. Je suis un interprète. Quand je contacte avec quelqu'un, mes amis, mes familles proches, mes voisins, ils envoient appeler avec les talibans, les groupes d'insurgés, ils vont tuer moi-même.
Est-ce que vous cachez le visage quand vous sortez? Est-ce que vous évitez d'aller dans certains quartiers? Est-ce que...
J'en mettais les lunettes de soleil, voilà, comme ça, pour éviter d'identifier moi.
Se cacher derrière un voile, derrière des lunettes, certains vont même jusqu'à se dissimuler sous une burqa lors de leur déplacement, de peur d'être reconnus. Bachir montre les lettres de recommandation d'anciens généraux et officiers français pour lesquels il a travaillé. Il tient à prouver qu'il a bien servi la France.
Bonsoir, bonsoir à tous et bienvenue. Voici les titres de votre journal. Mais d'abord, sachez que dorénavant, tous les jeudis, nous vous rappellerons que Stéphane Taponnier et Hervé Guéquière, journalistes à France Télévisions, sont retenus...
En décembre 2009, lorsqu'Hervé Guéquière et Stéphane Taponnier sont enlevés par des talibans dans la province de Kapisa, alors qu'ils réalisent un reportage pour le magazine Pièce à conviction de France 3, Bachir est aux premières loges avec un négociateur envoyé par Paris.
...d'évoquer chaque semaine leur captivité dans les journaux d'information.
Il avait été mandaté par Paris pour négocier avec les talibans pour un cessez-le-feu dans la Kapisa et libérer les journalistes capturés par les insurgés. Grâce à des sources locales, nous avons trouvé les contacts des ravisseurs et je les ai contactés, mais les négociations ont échoué.
Les journalistes français et leurs interprètes afghans seront libérés le 29 juin 2011. Bachir, lui, continuera à travailler pour l'armée française jusqu'à leur départ, prenant les mêmes risques que les soldats qu'ils assistaient, comme l'explique Adib.
On était très très sincères avec les armées françaises. Nous étions comme un soldat pour les armées françaises, parce que nous étions dans toutes les missions, avec gilet pare-balles, avec casque, etc. Quelquefois, on guide les armées. Voilà. Par exemple, cette région est très dangereuse. Par exemple, on donne des guides pour les comportements des armées françaises. Nous étions comme un conseiller. Par exemple, avec le chef de village, il faut parler comme ça. Il faut respecter cette règle. Mais avec les autres gens, il faut respecter cette règle. Et aussi, nous étions en danger dans toutes les missions, comme un soldat français. Les interprètes qui restent maintenant en Afghanistan, c'est-à-dire que c'est un soldat français qui reste en Afghanistan.
Les autorités afghanes, dépassées par le conflit qui déchire leur pays, ne peuvent rien pour ces anciens interprètes qui, désespérés, ne savent plus vers qui se tourner. À Paris, les autorités françaises gardent le silence. En 2015, elles n'avaient donné que 2 mois aux interprètes afghans pour déposer leur demande de visa. 252 ont pu les soumettre, 100 seulement ont été acceptés, toutes les autres ont été refusées. En France, l'Association des interprètes afghans de l'armée française tente de faire avancer les choses. La vice-présidente est maître Caroline Decroix.
Depuis 3 ans, on explique aux autorités françaises que ces personnes-là font l'objet de menaces réelles, que les dispositifs qui ont été créés depuis 2015 n'ont pas été à même d'assurer leur protection. Depuis quasiment 3 ans qu'on leur explique que le dispositif n'est pas à la hauteur de la nécessité de protection de ces personnels, nous n'obtenons aucune réponse satisfaisante. Alors vous me parlez de monsieur qui a été pris dans le cadre de cet attentat, mais il y a aussi tous les auxiliaires qui ont déjà quitté clandestinement l'Afghanistan. Aujourd'hui, nous, on en répertorie et on en suit une vingtaine. 4 sont arrivés jusqu'à Paris, ont obtenu le statut de réfugié de l'OFPRA. Là aussi, depuis plus d'un an, nous alertons le gouvernement sur le fait que si l'OFPRA reconnaît réfugiés des gens qui ont eu des refus de visa, c'est bien la preuve qu'il y a eu une carence dans le cadre du traitement de leur demande. C'est très compliqué d'être entendu par les autorités françaises. Manifestement, il y a un blocage terrible et une volonté de ne pas traiter les demandes de protection de ces personnes.
Après les demandes de visa, certains anciens interprètes comme Zainoula ont fait des demandes de protection fonctionnelle. Selon la loi de 1983, toute personne qui a travaillé avec l'administration française, y compris de manière contractuelle, a droit à la protection de la France lorsqu'elle est menacée du fait des missions qu'elle a exercées pour l'administration.
Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il n'y a aucune, si vous voulez, procédure claire. Aujourd'hui, un auxiliaire afghan en demande de protection, hormis l'Association des interprètes afghans et les membres du collectif d'avocats, n'a aucun interlocuteur pour lui apporter des réponses à sa demande de protection. L'ambassade ne lui répond pas, le ministère des armées, eh bien, c'est vraiment la grande muette. Personne ne répond à ces gens-là.
Pourtant, en février 2016, durant la campagne présidentielle, Emmanuel Macron avait suscité l'espoir des anciens interprètes et auxiliaires dans un discours sur les harkis, ces combattants algériens qui s'étaient engagés aux côtés de la France pendant la guerre d'Algérie.
Dire que les harkis ont été les victimes de la trahison de l'État français, que nous les avons abandonnés alors qu'ils s'étaient battus dans nos rangs, nous avons commis une faute comparable avec nos interprètes afghans. C'était une trahison.
Mais depuis son investiture, le président n'a plus jamais parlé des anciens interprètes afghans. L'association a envoyé une lettre à l'Élysée, une lettre restée sans réponse à ce jour. À Kaboul, les ex-interprètes sont encore plus effrayés depuis que certains d'entre eux ont témoigné dans les médias locaux après l'attaque suicide dans laquelle Zainoula a été blessé. Dans un restaurant de la capitale, les mines atterrées, l'air inquiet, ils montrent les commentaires haineux à leur égard qui accompagnent les reportages vidéo qui évoquent leur situation.
Deux de mes amis m'ont appelé pour me dire « on t'a vu à la télévision dans un reportage ». Après, j'ai vu tous les commentaires sur les sites des chaînes de télé. 99% sont négatifs. Il y a même des personnes qui sont avec les insurgés. Sur leur compte Facebook, ils écrivent « Essayez de reconnaître et de localiser cet homme. Ne le laissez pas partir sain et sauf en France. »
Que faire ? Fuir clandestinement ou attendre que l'un d'eux meure assassiné ? Ils se posent tous la question.
Je suis déçu. Je regrette d'avoir travaillé pour les forces de la coalition, pour l'armée française. Ils sont partis sans nous dire au revoir. Mes demandes de visa ont été rejetées, sans raison. Je suis blessé et terriblement déçu. Maintenant, tout le monde sait que j'ai travaillé pour la coalition internationale. Je ne peux même pas travailler pour le gouvernement, dans des ministères ou autres, parce qu'ils me disent que je dois demander un visa, que les forces étrangères doivent me ramener dans leur pays, comme c'est le cas des interprètes pour les soldats américains, britanniques ou canadiens. Je suis déçu.
Il y a moins d'un mois, le Conseil d'État a statué sur 3 dossiers d'interprètes afghans, estimant qu'il y avait eu une erreur d'appréciation dans leur demande de visa rejetée. De quoi faire naître un nouvel espoir, l'espoir qui les fait tenir encore. Adib, lui, ne peut s'empêcher d'y croire.
Je crois sur la France parce que la France, c'est un premier pays dans la protection d'humanité, d'égalité, fraternité. Mais j'espère qu'un jour, on peut aller dans une situation vraiment protégée, comme la France.
Afghanistan, menace sur les ex-interprètes de l'armée française. Un grand reportage de Sonia Ghezeli, réalisé par Pierre Chaffonjon.